Et à l'heure où la rosée blanchit la campagne, notre jardinier en chef nous rejoint. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous.
Votre mission cet été encore, c'est de répondre à toutes les questions des auditeurs. On commence avec celle de Franck. Il vit à Saint-Martin. Saint-Martin aux Antilles. Pourriez-vous parler, vous demande-t-il, des quenetiers? C'est le nom local des Meliococcus bijugatus. Je ne sais pas si je
bravo,
le dis bien.
Ils sont les
seuls à avoir survécu à Irma et ses vents à plus de 450 km/h pendant 12 heures.
Oui, alors je ne suis pas sûr que les vents aient été aussi violents. Moi, d'après mes renseignements, ils atteignaient 360, mais c'est déjà
énorme,
considérable. Mais il est vrai que cet arbre qui produit la quenette, et oui, on connaît peu, nous, en France métropolitaine, ce petit fruit, qui ressemble à un mélange entre le litchi, je dirais, et le citron vert. Mais c'est petit, de la grosseur d'une cerise, et il est vrai qu'il paraîtrait, je ne connais pas le jus de fruit, mais presser les fruits du quenetier donnerait un nectar absolument merveilleux. Ce qui est sûr, c'est que cet arbre est originaire du continent américain, et en particulier d'Amérique du Sud. Et il est capable, de par son ancrage dans la terre, la disposition de ses racines, à résister à des vents furieux. Il est capable également, de par la structure de son bois, à se plier sans véritablement rompre. Et cela explique pourquoi cet arbre a été effectivement l'un des plus résistants lors du passage de ce terrible ouragan.
Michel, il nous a écrit « J'ai réussi à me débarrasser de la maladie du corail en passant une éponge d'eau de Javel sur les pustules qui commençaient à envahir les branches voisines. Cette information peut intéresser des jardiniers amateurs. » Vous en pensez quoi, vous, Alain ?
Il ne faut pas trop jouer avec l'eau de Javel dans le jardin. L'eau de Javel, ça pollue. Quand on est confronté à un problème de santé, il faut déjà peut-être se poser la bonne question : pourquoi ma plante souffre-t-elle de la maladie du corail ? La maladie du corail est généralement liée à des coupes trop importantes sur les arbustes. Vous avez des troènes, vous avez des charmes, vous les rabattez sans tenir compte du fait que ce sont des êtres vivants. Et quelques années plus tard, effectivement, vous avez des petites pustules oranges qui apparaissent, d'où le nom, maladie du corail. Et là, on ne comprend plus le pourquoi. On ne taille pas les végétaux n'importe comment. On n'oublie pas non plus, quand on taille un troène, avant de tailler le suivant, de désinfecter les outils. Vous savez, c'est un petit peu comme nous, quand nous allons chez le dentiste ou chez le médecin, on serait pas très heureux de savoir qu'il n'a pas désinfecté les outils entre deux patients. Il en est de même pour les plantes. N'oublions jamais, jamais, jamais que les plantes sont des êtres vivants qui méritent notre attention, nos soins et des précautions.
Donc on désinfecte les outils, mais pas les plantes.
Oui, et là on peut les désinfecter par contre à l'eau de Javel.
À l'eau de Javel, on est d'accord.
Là, il n'y a pas de souci.
Chantal, elle a des tilleuls qui sont vieux et certains sont creux, bien que très fournis en feuilles. Doit-elle s'inquiéter de les voir s'effondrer sur la famille, car ils ombragent la terrasse?
Alors, tout dépend bien sûr de la dimension de ces tilleuls, tout dépend de la hauteur de ces tilleuls. Mais avouez que c'est assez extraordinaire de voir ces vieux végétaux, généralement totalement creux, qui continuent de vivre. On se demande comment font-ils pour vivre. L'occasion peut-être de rappeler qu'un arbre ne vit qu'en périphérie du tronc. Le bois, au centre, finalement, ne sert qu'à maintenir le végétal, c'est du bois mort. La plante ne vit que grâce aux petits vaisseaux situés à la périphérie du tronc, juste sous l'écorce. L'écorce, d'ailleurs, a pour mission de protéger ces vaisseaux du bois, du vent, du choc ou du gel. Donc, quand on voit des vieux tilleuls, on a tendance à se dire, que faire? Est-ce que je vais mettre du béton à l'intérieur? Non, non. On ne fait rien du tout. On laisse le cœur tel qu'il est. Par contre, on peut peut-être obanner. Obanner, c'est mettre
ça
de grosses béquilles en bois. C'est-à-dire, on le voit de temps en temps pour soutenir en cas de difficulté. Mais avouez que quand vous avez le bonheur d'avoir un jardin, un vieux tilleul, il fait 35 degrés à l'ombre et vous allez prendre votre petit déjeuner. Ce tilleul a peut-être été planté par un grand-père que l'on chérissait. On va pas le couper quand même. Donc, on ne coupe pas tout n'importe comment. On se rappelle que derrière un arbre, il y a peut-être le souvenir d'un grand-papa ou d'une grande-maman.
C'est très joli, Alain. Bernard, lui, il nous dit qu'il est perplexe. Ses groseilliers ont le pied recouvert par un sol couvert de champignons blancs. Que doit-il faire?
Un grand classique. Les groseilliers, souvent, sont mis dans des situations peu ensoleillé, dans des coins d'ombre. La structure même du groseillier fait que la terre rapidement se craquelle et se couvre de blanc. Ça peut être des champignons, mais qui vous dit que ce n'est pas également du calcaire? Et oui, vous arrosez votre jardin. Eh bien, pour des questions d'absorption ou pas, un dépôt de calcaire peut se former à la surface du sol, faisant croire effectivement qu'il s'agit de champignons. Dans tous les cas de figure, un petit coup de griffe ne fera pas de mal. La griffe permettra de se débarrasser de cette structure blanche dérange que pour d'ailleurs une esthétique, mais permettra surtout à l'eau de pluie de pouvoir pénétrer la terre plus facilement, et ça c'est profitable.
La question de Claire maintenant, elle possède deux magnolias distants d'une vingtaine de mètres. Le premier, il a fleuri abondamment, tandis que l'autre ne donne qu'une dizaine de fleurs depuis 2 ans. Il est aussi un peu envahi de lichen. Je lui mets pourtant de l'engrais, nous dit Claire. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux
magnolias ? Vous avez sous les yeux un magnolia. Ouais. Il fait une dizaine de mètres de haut. Vous êtes-vous amusé à calculer la profondeur des racines sous terre ? Eh bien, les racines, elles aussi, vont à 10 mètres sous terre.
Oui.
Avant que votre engrais n'atteigne les racines, je ne vous dis pas le chemin. En un mot, mettre de l'engrais pour un arbre qui fait 10 mètres d'eau ne sert absolument à rien. Les plantes, parfois, sont capricieuses ou parfois ont besoin d'une terre qui corresponde vraiment à leurs besoins. Là, un magnolia, apparemment, est bien situé. Il est heureux. L'autre n'est pas dans une terre qui lui convient. Il a été planté peut-être dans une terre de bruyère qui lui convient parfaitement. Mais l'arbre, il grandit, les racines se déplacent. Et je pense que les racines, maintenant, attaquent un secteur peu propice à son développement. Ben, il n'y a rien à faire, en fait. On peut continuer à mettre de l'engrais. On a le droit de dépenser de l'argent pour rien. Mais je déconseille.
Ça sert à rien, effectivement.
D'où l'importance de bien placer la plante
quand on l'installe. Ce message maintenant de la famille Mazzoni. Nous avons 2 pieds de vigne vierge sur la façade de la maison. Le pied face sud fait de moins en moins de feuilles et cette année, il n'y en a que quelques-unes. Pensez-vous qu'il faille la couper et replanter un nouveau pied ?
Il y a une chose que l'on a du mal à se souvenir. Les plantes sont des êtres vivants, donc ce sont des êtres mortels. Et parfois, eh bien, une plante, pour une raison qui nous échappe, n'est pas en mesure de vivre très longtemps. Vous avez des pieds de vigne vierge qui vont vivre 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire davantage. Et puis d'autres qui, au bout de quelques années, ne vivent pas. Peut-être que ce pied que cette plante a eu quelques soucis de produits, peut-être que le vent, la chaleur, le manque d'eau, je ne sais, mais toujours est-il qu'elle est dépérissante, c'est fini, il faut couper et remplacer.
Il nous reste quelques secondes, Alain, pour évoquer un livre, votre coup de cœur du matin.
Ah oui, et vraiment, vous savez, quand on pense jardin à la française, on pense parterre, broderie, perspective, ce n'est pas que ça. Et Chiara Santini et Michel Audouy, deux personnages qui s'y connaissent. Le premier, il est paysagiste enseignant, la seconde, Chiara Santini, est une des plus merveilleuses et une des plus professionnelles historiennes de l'art de jardin. Elle enseigne à l'École nationale supérieure du paysage à Versailles. Eh bien, ils ont donc rédigé « Paysage, l'héritage de le nôtre ». C'est un ouvrage collectif merveilleux. On apprend tout sur l'héritage de le nôtre et c'est publié chez Actes Sud.
On vous met les références sur le site internet. Merci beaucoup, Alain Baraton. Je vous dis à la semaine prochaine.
À samedi prochain.